Je vais citer quelques extraits qui sont dits dans le livre par Hank. Par exemple, la nouveauté, la bonté, c'est s'adresser aux autres comme s'ils étaient vivants. Ou alors encore, c'est dans l'invisibilité que réside le salut. Sois bon envers toi-même, ton moi est unique et périssable, tu es cela. Ou encore le verbe contaminer. Alors, sa parole est d'une modernité. Était-il visionnaire à votre avis ?
Oui, c'est un visionnaire dans le sens que je crois que tous les visionnaires sont intemporels. Donc vous dites sa parole est d'une modernité remarquable, bon, je suis d'accord. Et je crois que la vision, en fait, est intemporelle. Donc, d'un certain côté, si vous prenez la parole de Hank, telle qu'elle apparaît dans ce livre, il y a un aspect où elle est marquée par les expressions, elle est marquée par son époque, par un certain langage américain, bon, qui est ici, en français, restitué en français, bien sûr. En même temps, c'est complètement intemporel. Donc oui, pour moi, c'était un visionnaire, mais dans le sens, c'était Ginsberg, je crois, dit que c'était un bodhisattva de quartier, ou un saint sauvage, comme il en existe, selon Ginsberg, dans tous les pays, et notamment aux États-Unis. Voilà, quelqu'un d'anonyme, qui était porteur d'une vision, d'une bonté, d'une compassion, et qui, de manière invisible, c'est-à-dire sans justement être dans les radars des médias, comme l'était Ginsberg lui-même, qui était très connu, etc., lui, Hank, c'était un principe actif de bonté et de compassion cachée, dissimulée en quelque sorte, au cœur de la ville, qui se manifestait pour une personne, une autre, au gré des rencontres, de manière complètement erratique et hasardeuse en fait.
Dans le livre, à un moment vous allez repartir donc en France et vous souhaitez lui dire à bientôt. Et c'est là quelque part, il vous dit « Mais non, on se reverra pas puisque tu as tout ça à vivre. »
Absolument. Moi, j'étais dans l'idée de vouloir perpétuer quelque chose. Et pour lui, le travail était fait. On s'était dit ce qu'on avait à se dire. L'échange qui devait avoir lieu avait eu lieu. À partir de là, c'était fini. Il n'y avait plus de nécessité de perpétuer quelque chose, de se revoir, de correspondre, etc. Maintenant, vis ce que tu as à vivre.
C'est comme s'il avait vu ce que vous alliez vivre dans les 30 prochaines années.
Il y avait certainement beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité. Et puis après, c'était aussi assez évident de voir que, bah voilà, que j'étais un jeune homme habité par la demande de rencontrer des gens, des interviews, avec une forme d'ambition d'une certaine façon sur un certain plan. Et que donc, bah voilà, j'allais pas m'arrêter à cette rencontre avec Allen Ginsberg et les autres et que j'allais continuer, en tout cas pendant un certain temps, à explorer différentes choses. Donc il y avait un côté où c'était aussi assez naturel de le voir, de le pressentir. Mais ce qu'il y avait de remarquable, c'était justement ce mouvement de dire, ben voilà, ce qui devait se vivre a été vécu, maintenant tu passes à autre chose.
Toujours sur Hank, donc j'ai trouvé que sa vision du réel était presque épurée, réduite à l'essentiel. J'ai noté « t'as un vivant parmi des morts vivants », parce que c'est vrai que quelquefois il a une vision de la réalité. Il vivait sans peur en parlant de notre cinéma du quotidien. Et alors ça m'est apparu comme une vision du guerrier de Castaneda. Il parle de l'homme qui est un exercice de style entre la frayeur d'être un homme et la joie d'être un homme.
Ben, je crois que dans le cas de Hank, c'est quelqu'un qui a, à un moment donné dans sa vie, traversé la tragédie, traversé la perte terrible, et qui du coup s'en est sorti en lâchant beaucoup de choses. Ce qu'il a traversé était pour lui tellement terrible, et ça l'aurait été pour n'importe qui, la perte brutale d'être très cher, que pour lui ça a remis en cause toute son identité, tout ce à quoi il s'accrochait, son ambition, ses buts ordinaires, et qu'à partir de là, effectivement, il a tout réduit à l'essentiel. En fait, il n'avait plus peur parce que de toute façon, ce qui pouvait lui faire le plus peur était déjà arrivé. Et en même temps, il ne pouvait que constater qu'il n'en était pas mort, qu'il n'était pas devenu fou, donc qu'il avait survécu. Et qu'à partir de là, ce déchirement, cette brisure du cœur, au lieu de l'abattre, l'avait ouvert. Et je crois que c'est toujours comme ça. Un mystique, quelqu'un qui effectivement est un visionnaire et porteur d'une vision vaste, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé d'une manière ou d'une autre. Soit, finalement, d'une certaine manière, ce qui reste du cœur se ferme, et c'est dommage, évidemment, c'est souvent le cas, soit, au contraire, le cœur brisé s'ouvre et se branche sur un cœur beaucoup plus grand que le cœur individuel. Donc pour moi, Hank, c'est un personnage qui témoigne de ça. C'est quelqu'un qui a traversé ses peurs les plus profondes, qui est ressorti de l'autre côté, et qui, à partir de là, témoigne d'une vie innocente, effectivement débarrassée de la peur, débarrassée du cinéma mental quotidien, et qui se vit dans une relation à l'immédiateté, au fameux ici et maintenant, et avec toujours cette intention de compassion qui, chez lui, est très très importante. Mais en même temps, une lucidité aussi très très crue. Il y a plein de propos qui tiennent dans le livre qui sont d'une lucidité sans concession.
Est-ce qu'on peut dire qu'il était très christique, finalement ?
Il était très critique.
Christique. Mais...
Ah, christique, pardon, oui. J'avais compris, critique. Bah, alors, déjà, je vais dire il était critique, ouais. Mais toujours avec compassion. Ouais. Et puis christique, oui, dans le sens... il avait une dimension de lucidité, de témoignage, et aussi un aspect un peu miraculeux. Alors, bon, il ne marchait pas sur les eaux, il ne rendait pas la vue, littéralement, aux aveugles. Mais, métaphoriquement, oui. Il y a quelque chose où... c'est quelqu'un qui amène les personnes qui ne voient pas à voir. C'est quelqu'un qui amène les personnes qui ne sont pas vivantes à être vivantes. Et il y a tout ce passage où il parle de Lazare. Il se lance dans une sorte d'improvisation délirante au sens joyeux du terme, et où ça finit, il a une vision de tout New York avec les gens qui sortent de leur tombeau en bandelettes et qui dansent dans les rues, bon, etc. Bon, c'est assez incroyable. Effectivement, c'est cette vision, cette ville... Une ville comme New York, on peut remplacer New York par Paris, évidemment, Rome, Los Angeles, est peuplée de morts vivants qui, en fait, sont complètement prisonniers, déjà morts, alors même qu'ils paraissent vivants. Et il s'agit de s'adresser à eux comme s'ils étaient vivants et de ranimer la vie en eux. Et comme il le dit, le Christ, quand il s'adresse à Lazare, lui parle comme s'il était lui vivant. Il lui dit « Réveille-toi, lève-toi ». Vient. Et à ce moment-là, donc, Lazare effectivement sort avec ses bandelettes dans cette image très forte. Et donc, Hank développe très bien ça. Et sa fonction, c'est effectivement, oui, de réveiller les morts vivants que nous sommes, d'opérer une sorte de résurrection spirituelle.
Oui, comme s'il vivait finalement déjà dans l'oméga du temps. Enfin...
Absolument. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est intemporel. Oui. Il est à la fois dans le temps, évidemment, dans son époque, et en même temps, il est dans une intemporalité. C'est très clair.
Alors, je parlais de christique, puisque vous avez été disciple d'Arnaud Desjardins, qui lui-même était dans une foi chrétienne. Et donc, votre enseignement, vous, se rattache donc à la tradition qui était celle d'Arnaud Desjardins. Mais comment est-ce que vous rattachez également dans votre enseignement des éveillés plus sauvages que vous avez pu rencontrer au cours de votre vie ?
Alors donc, je suis effectivement, je parle au présent parce que même si... Arnaud Desjardins est mort, a quitté son corps, comme on dit en Inde. Voilà, pour moi, c'est toujours une réalité plus vivante que jamais. Donc, je suis élève, effectivement, d'Arnaud Desjardins. Après, c'est pas tellement la personne, hein, c'est vraiment élève de ce que cette personne qui est née, qui a vécu et qui est morte, le moment venu, de ce que cette personne a transmis, de ce que cette personne a véhiculé, qui est toujours vivant. Le lien que je fais avec des éveillés dits plus sauvages, c'est que de toute façon, la vie, c'est la vie. Donc, même si pour moi, et je sais que là, je m'inscris dans un courant qui aujourd'hui est de moins en moins populaire, de plus en plus mal compris, de plus en plus contesté, mais de mon point de vue, la tradition, la lignée spirituelle, la transmission de guide à élève est quelque chose de très important, bon, comme ça a d'ailleurs toujours été affirmé au cours des siècles. C'est très récent qu'on envisage les choses autrement et ça s'explique par plein de choses. Et en même temps, même si je suis convaincu de cela par ma propre expérience, la vie, c'est la vie. Donc j'ai rencontré des personnes qui témoignaient d'une forme, je dis bien d'une forme d'éveil, parce que qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par éveil, ça il faudrait faire toute une émission là-dessus, à mon avis il y a beaucoup de malentendus. Mais voilà, j'ai rencontré des personnes qui témoignaient d'une forme de, comment dire, de vie à la puissance plus, qu'on peut appeler éveil, de vision, qui ne se rattachaient pas à une tradition particulière, et qui néanmoins étaient des témoins, à mon sens, très précieux et très, très intéressants de cette force de vie. Après, ça ne m'a pas empêché de rester, moi, inséré dans une lignée, dans une tradition, ce qui me paraît encore une fois très important. Mais pour moi, il n'y a pas de contradiction. En fait, j'intègre dans ce que je transmets aujourd'hui, moi-même en tant qu'enseignant, qu'il faut bien appeler enseignant spirituel, on ne peut pas dire autrement, j'intègre aujourd'hui, naturellement, en fait, toutes les influences qui ont été les miennes, sans pour autant faire une sorte de melting pot syncrétiste. Le fond de ce que je transmets, c'est ce que j'ai reçu, pratiqué et compris à travers Arnaud et à travers aussi son maître que je n'ai pas rencontré, mais dont j'ai reçu quelque chose à travers Arnaud lui-même, donc Swami Prajnapad. Et puis après, autour de ça, toutes les influences s'intègrent.
Mais est-ce que votre façon d'enseigner est, par exemple, plus rock'n'roll que celle d'Arnaud Desjardins ?
Ma façon d'enseigner est certainement, et sans aucun doute, plus rock'n'roll que celle d'Arnaud Desjardins. Bon, ça tient, il y a une question bien sûr de génération, hein. Il y a une question de tempérament, il y a une question d'influence. Par exemple, tout ce courant beat, c'est quelque chose qui m'habite, je l'ai connu, je l'ai approché. De même qu'Arnaud avait été marqué par le théâtre classique, il avait fait le cours Simon, il avait été marqué par toute une génération de comédiens qui étaient de sa génération, qui étaient dans une certaine dimension du texte. Bon, et c'était quelque chose qui l'avait beaucoup marqué. Et qui, à sa manière, était présente aussi dans sa façon d'enseigner. Bon, bah, moi, c'est sûr, je suis marqué par différentes choses, dont la Beat Generation, le rock'n'roll, la musique. Bon, je suis moi-même un peu musicien à mes heures. Bien sûr, mais ça, je dirais que oui, c'est plus rock'n'roll. En même temps, en fait, c'est très structuré. Mais c'est un petit peu comme la bonne musique. On peut considérer, si on connaît pas bien, que le rock c'est du bruit, que c'est un peu n'importe quoi, des gens qui arrivent et qui tapent sur une batterie et qui massacrent une guitare. Après, si on s'intéresse un peu plus à la chose, on s'aperçoit que ce qui a traversé le temps, en tout cas les groupes qu'on écoutait il y a 40 ans ou 50 ans maintenant et qu'on écoute toujours aujourd'hui, bah en fait c'était des grands musiciens, même si la structure de leur musique était relativement simple, et qu'à partir de cette structure, ils faisaient preuve d'une très grande rigueur, y compris dans l'improvisation. Donc je dirais que ce que je transmets est en fait très rigoureux, très cadré, d'un certain point de vue très classique, et puis qu'après, en surface, dans certaines formes, dans une certaine apparence des choses, effectivement, c'est beaucoup plus rock'n'roll, il y a une forme de fantaisie, de style, bon voilà, qui est tout à fait différent, effectivement, de celle d'Arnaud Desjardins, ça c'est sûr.